Vous êtes sur RTL.
Les 8h.
RTL Matin, Stéphane Carpentier, le journal de Sébastien Rouxel.
Bonjour Sébastien.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Toute l'actualité de ce 19 janvier et à la une, sans doute un tournant majeur dans la contestation contre la réforme des retraites.
Les conducteurs du métro parisien ont voté dans la plupart de leurs assemblées générales la suspension de la grève à la RATP après 45 journées d'action. La fatigue se fait sentir et cela devient très compliqué financièrement, explique Franck Minel. Il est le représentant des conducteurs à l'UNSA, le principal syndicat à la RATP.
Quand vous faites 45 jours de grève et puis que vous apercevez que vous gagnez pas, quoi. Enfin, qu'il y a pas grand-chose qui a évolué depuis le départ. Bien entendu, on a un sentiment de défaite malgré tout. On va remonter sur les trains avec pas des regrets, mais avec un peu d'amertume effectivement. Oui. C'est un mois et demi de salaire en moins. Forcément, il fallait trouver un autre mode d'action pour montrer qu'on était toujours contre cette réforme. La décision qui a été prise, on a préféré rester sur les journées interprofessionnelles. On se mettra en grève et on ira manifester.
Franck Minel, joint par Raphaël Vantard pour RTL. Dès demain, le trafic devrait donc grandement s'améliorer. Seulement 3 lignes ont décidé de rester en grève. En attendant, 8 lignes de métro fonctionnent normalement aujourd'hui à la RATP. À la SNCF, le trafic des TGV devrait être quasi normal. Cette décision, elle intervient en pleine radicalisation du mouvement contre la réforme des retraites. Plusieurs actions coup de poing ont été menées ces derniers jours. Avant-hier, des manifestants ont tenté de pénétrer dans le théâtre parisien où se trouvait Emmanuel Macron. Un peu plus tôt, des grévistes avaient envahi le siège de la CFDT dans la capitale. Des actions musclées qui ne sont pas si nouvelles, Éric Vanier.
Ça rappelle un peu ce qui s'était passé en 2016 lors du mouvement contre la loi El Khomri, un conflit qui se prolonge, qui ne trouve pas d'issue et qui finit par se replier sur lui-même autour d'un noyau dur de jusqu'au boutiste. Après un mois et demi, ceux qui sont aujourd'hui encore dans l'action ont compris qu'ils n'arriveraient pas à déclencher une grève générale ni à mobiliser massivement dans la rue pour rester visible, empêcher que l'on puisse dire que le mouvement est terminé. Ils se rabattent donc sur ces opérations coup de poing, plus ou moins violentes, très symboliques et médiatiques, faciles à organiser car elles ne mobilisent que quelques dizaines de personnes. Les gilets jaunes ont montré le chemin. Pas de grève, pas de grosses manifs, mais des actions ciblées, en dehors de toute structure organisée, sur fond de violence et sous l'œil des caméras. Le phénomène a pris d'autant plus d'ampleur que les syndicats contrôlent de moins en moins leur base. Et les réseaux sociaux, de plus en plus actifs, facilitent l'organisation de ces opérations éclairs, souvent décidées au dernier moment.
Décryptage signé Éric Vanier du service économie et sociale de RTL.
Il avait justement signalé la présence d'Emmanuel Macron au théâtre des Bouffes du Nord vendredi soir. Taha Bouaf est sorti libre de sa garde à vue hier.
Pas de mise en examen pour le journaliste militant placé sous le statut de témoin assisté. Une information judiciaire a été ouverte. Autre signe du climat délétère qui règne en ce moment, les scènes de violence en marge de l'acte 62 des Gilets jaunes, des feux de poubelle, du mobilier urbain brûlé et des affrontements avec les forces de l'ordre. 59 personnes ont été interpellées, plusieurs milliers de manifestants avaient défilé dans les rues de Paris en tenant des slogans anti-Macron et contre la réforme des retraites.
Des épreuves du nouveau bac reportées dans un lycée de Clermont-Ferrand.
Environ 300 militants opposés à la réforme de Jean-Michel Blanquer ont investi les couloirs du lycée Blaise Pascal. Conséquence, les examens ont été annulés. Et c'est dans ce contexte, Marie Guerrier, que vous nous révélez en exclusivité les sanctions infligées aux enseignants qui avaient perturbé le bac l'été dernier.
Les retenues sur salaire ont commencé en septembre et elles se terminent en ce début d'année 2020. Près de 4000 enseignants se sont vus retirer un 1/30 de leur salaire par jour de grève. On ne sait pas combien de jours ont été comptabilisés, mais cela concerne les profs qui avaient refusé de surveiller les épreuves du bac en juin et ceux qui n'avaient pas rendu leur copie dans les temps début juillet. Quand ils sont convoqués pour surveiller ou corriger, il s'agit pour les profs d'une obligation de service. 500 profs ont eu droit à un rappel à leur obligation professionnelle et une cinquantaine ont été sanctionnés d'un avertissement ou d'un blâme. Les deux premiers échelons dans le tableau des sanctions disciplinaires de la fonction publique. Il y a eu des comportements inappropriés, dit l'Éducation nationale. Le ministre Jean-Michel Blanquer avait parlé de 2000 profs qui retenaient des copies et avait promis la plus grande sévérité à ceux qui avaient empêché la tenue de jury.
Marie Guerrier, notre spécialiste éducation.
Au Royaume-Uni, Harry et Meghan renoncent à leur titre d'altesse royale.
Annonce hier soir de Buckingham Palace qui met fin à 10 jours de crise. Début janvier, le couple avait exprimé sa volonté de se mettre en retrait de la famille royale. Une décision choc qui a contraint la reine Elisabeth II à prendre des dispositions inédites, Marie Billon.
Ils voulaient être des membres de la famille royale à temps partiel. Eh bien, Elisabeth II a répondu « ça n'est pas possible ». Le couple ne représentera plus la reine et doit renoncer à ses fonctions royales, a précisé un communiqué émis par Buckingham Palace hier soir. Harry et Meghan ne recevront plus d'argent public non plus. Ils ne sont pas déchus de leur titre d'altesse royale, mais ils n'utiliseront plus cet auguste préfixe. Les fans sont quand même choqués.
Ils vont nous manquer. Ça me fend le cœur qu'ils quittent la monarchie, qu'ils quittent le Royaume-Uni pour le Canada. Et qu'ils n'aient plus leur titre. C'est très triste.
Dans son communiqué, la reine a aussi parlé en tant que grand-mère. Harry et Meghan restent très aimés. Elle se dit aussi fière de la rapidité avec laquelle Meghan a su se faire une place au sein de la famille royale. Et pour revenir en grâce dans le cœur des Britanniques, le couple garde sa villa à côté du château de Windsor, mais dit vouloir rembourser les plus de 2,5 millions d'euros d'argent du contribuable qui ont servi à sa rénovation. Quant à la question de leur sécurité, elle n'est pas encore réglée, mais elle pourrait rester financée avec de l'argent public.
Marie Billon, la correspondante de RTL au Royaume-Uni.
Et le décryptage de cette crise outre-Manche, ce sera tout à l'heure à 9h10 avec notre spécialiste à nous ici à RTL. C'est Stéphane Bern qui sera au bout de son téléphone. Vous restez bien là, dans un instant le Vatican et des sans-abri logés dans un palace au Vatican grâce au pape François. A tout de suite.
RTL Matin.
RTL Matin, 8h09, la suite du journal. Sébastien Rouxel, avec vous, Stéphane Carpentier.
Et donc l'Italie, où le pape François offre un palais aux sans-abri.
La demeure d'une ancienne famille de la noblesse romaine, léguée au Vatican pour financer des œuvres de charité. Elle devait être transformée en hôtel 5 étoiles, mais le souverain pontife a mis son veto. Il a décidé de la confier à des bénévoles. L'objectif, en faire une maison d'accueil pour les SDF, Anne Lenier.
Ce palais du XVIIIe siècle, avec vue imprenable sur la coupole de Saint-Pierre, a une superficie de 2000 mètres carrés sur 4 étages. 3 terrasses, 4 réfectoires, 13 salles d'eau, 17 chambres et de vastes salons décorés de fresques ou de tableaux. Le cadre idéal pour reprendre son souffle, témoigne Silvano, 60 ans, à peine sorti de l'enfer de l'alcool.
Quand on a dormi 8 ans sur des cartons et qu'on se retrouve dans un lit, c'est l'extase. Le pape François nous rend sereins, c'est ce qui nous manquait à tous.
Actuellement, une trentaine d'hôtes sont assistés par une équipe de bénévoles. Alessandro, 50 ans, père de 2 enfants, a été chassé de son domicile après avoir perdu son travail. Il apprend à revivre.
D'ici, on voit tout Saint-Pierre, c'est comme un rêve. J'ai eu le privilège de connaître le pape, on s'est embrassé 2 fois et on a dégusté des pâtisseries ensemble dans la maison qu'il nous a offerte.
En l'inaugurant, François a déclaré que la beauté guérit. Concept qui colle parfaitement à cette initiative inédite.
Anne Lenir, la correspondante de RTL en Italie.
Le football, Sébastien, ça passe pour Lyon en Coupe de France.
Les hommes de Rudy Garcia s'imposent 4-3 face à Nantes en 16e de finale. Fin de parcours, en revanche, pour la Saint-Pierroise. Le club réunionnais éliminé par Épinal. Le nouveau petit poucet ce matin, c'est donc Limonest, victorieux face à Prix-les-Mézières. Qualification surprise de Belfort face à Nancy. Le club de National 2 entre dans l'histoire. Et les joueurs l'ont bien fêté dans les vestiaires, Yannick Collant.
Les murs des vestiaires belfortins ont tremblé après cette victoire 3-1 face à Nancy. Qualification historique pour Jean-Paul Simon, un président comblé.
On commande du champagne à l'intendance. Champagne à gogo jusqu'à... Moi je bois pas, il y a eu un match sur deux. C'est génial, on est en 8e de finale de Coupe de France, je savais même pas que ça existait moi. 17 ans je suis président, on avait fait 32e, on est en 8e. C'est magique quoi.
Parmi les héros de ce 16e de finale, Eddy Ehlinger, le gardien 18 ans, qui a détourné un pénalty en première mi-temps, porté en triomphe par les supporters.
Je réalise pas du tout là. Il y a tous les gens qui me sautent dessus, je comprends plus ce qui se passe là.
L'autre grand monsieur de cette rencontre aura été Thomas Régnier, l'ancien Sochalien, à 35 ans, auteur d'un doublé.
Anecdotique le doublé, c'est la qualif courtière. Je cours un peu moins vite qu'avant, mais ouais, voilà, j'ai donné tout ce que j'avais aujourd'hui parce que j'avais à cœur d'aller en 8e avec mon club de cœur. J'ai couru vers les tribunes, j'ai tout lâché. J'avais envie de marquer. J'ai tout lâché, on est heureux ce soir.
Et vous tapez qui au prochain coup?
Nous, on veut PSG l'OM.
Comme quoi pour les Lions de Belfort, l'appétit vient en mangeant.
Yannick Collant pour RTL. Et les 16e de finale de la Coupe de France continuent aujourd'hui avec 5 confrontations au programme et notamment l'Atlético Marseille face à Rennes. Des matchs à suivre toute la journée sur RTL.
Le point complet de l'actualité, vous allez cliquer sur rtl.fr, c'est tout simple. Sébastien revient bien sûr vous informer tout à l'heure à 9h.
À tout à l'heure.
Rtl.fr quand vous le souhaitez. On a Michel à Bondoufle en Essonne, il y a 2 degrés au réveil ce matin. 2 degrés pour Ingrid à Vannes également. Moins 2 degrés en Ardèche, fait froid ce matin, c'est Christine qui nous donne l'info. Vous nous envoyez des messages, vous êtes tous les bienvenus.
Et c'est le moment de retrouver Dominique Cordier pour les courses du jour.